Ce matin, au moins deux crises au cœur de l'actualité. Crise écologique avec ce nouveau rapport du GIEC qui évoque une augmentation sensible des températures. Crise politique aussi au Brésil et de manière bien moindre. Mais malgré tout, en France, avec le remaniement, je me suis demandé avec qui on pouvait parler de ces crises. Et justement, Jacques Attali, vous qui êtes écrivain, essayiste et économiste, vous publiez « Comment nous protéger des prochaines crises ?» C'est chez Fayard. Tout d'abord, votre réaction à ce que l'on vient de dire sur le Brésil avec cette sensation que l'histoire se répète.
Oui, l'histoire se répète et comme le disait Roberto Salviano l'autre jour, cette histoire est peut-être notre futur qui nous regarde d'à côté. C'est peut-être quelque chose qui nous menace, comme l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a une vague de gouvernements populistes et autoritaires un peu partout à travers la planète, tout simplement parce que face à des crises complexes, interdépendantes, pour lesquelles il y a des réponses positif, formidable, possible, il y a aussi des réponses simples. Et quand il y a des réponses simples, c'est évidemment les réponses manichéennes que les gouvernements populistes ou les dirigeants de ce genre peuvent donner. Il suffit de s'enfermer, il suffit de chasser les étrangers, il suffit de... Quand on dit « il suffit », ça prouve qu'on croit que la chose est simple.
Les élites, aujourd'hui, sont accusées d'avoir laissé se développer ce populisme. C'est particulièrement le cas au Brésil où la classe politique apparaît très largement corrompue. Y a-t-il la possibilité aujourd'hui pour ces élites de faire une autocritique, de voir quel rôle a été effectivement celui donc de ces classes dirigeantes dans la propagation de ce phénomène mondial, Jacques Attali?
Jacques-Guillaume, vous avez glissé. Vous avez parlé de classe dirigeante et vous avez parlé d'élite. Faut pas confondre. Les élites, c'est qui? Ça dépend de la façon dont on les définit, mais les élites, c'est les professeurs, c'est les savants, c'est les chercheurs, c'est ceux qui font avancer l'humanité. Alors, classe dirigeante, évidemment pas eux, parce qu'on le saurait, c'était les savants qui étaient au pouvoir. C'est ceux qui dirigent. Donc parlons d'une crise de la classe dirigeante. Cette crise est très profonde, elle tient à des raisons qui sont essentiellement liées au fait que l'économie est globalisée, le marché mondial, alors que le pouvoir politique, démocratique ou pas, reste local. Et soit nous allons vers un pouvoir politique global, ce qui est une utopie très lointaine, qui arrivera peut-être dans un siècle, soit beaucoup de gens disent, si on n'est pas capable d'avoir un ordre planétaire capable d'affronter, d'équilibrer, de compenser, suivant le curseur que l'on place, le marché, eh bien autant le faire soi-même, se fermer dans les frontières. Et c'est ça la crise des classes dirigeantes, c'est que les classes dirigeantes ne sont pas pour l'instant capables de s'entendre pour créer un ordre de droit international capable de compenser les extrêmes folies que le marché provoque.
Extrême folie du marché, des raisons du politique. Et cependant, lorsque l'on voit, par exemple, la politique menée par Donald Trump, est-ce que vous la jugez irrationnelle, par exemple, dans sa lutte, dans sa guerre commerciale avec la Chine? Est-ce que tout est mauvais dans ces décisions-là?
C'est la théorie du bien connu du passager clandestin, c'est-à-dire que si vous êtes un passager clandestin, vous profitez de la situation du bateau ou du train sans payer. Donc ce que Trump fait, en dehors du côté moral qu'on peut, comme moi, le contester, c'est peut-être bon à court terme pour les États-Unis, parce que quand vous êtes en déficit, il suffit de couper les importations, mais la réaction en chaîne, la conséquence en chaîne est catastrophique, y compris pour les États-Unis. Donc à court terme, couper les importations américaines de Chine, c'est bien pour les États-Unis, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que la Chine, qui n'a pas les moyens de rétorsion, puisqu'elle n'exporte pas autant que les États-Unis le font, va être en situation de devoir exporter ailleurs. Donc elle va noyer le reste du monde, l'Afrique et l'Europe, de produits chinois, qui vont être donc en situation d'une concurrence déloyale extrême à l'égard de nos propres productions, qui va entraîner toute une série de conséquences en chaîne, qui fait que, en toute logique, soit l'industrie africaine balbutiante et naissante va être balayée, et en Europe, nous risquerons la même chose, donc on aura des réactions protectionnistes, et le monde rentrera dans une logique protectionniste qui entraînera une crise dont les États-Unis seront la principale victime. Donc c'est une réaction à court terme qui est extraordinairement dangereuse que de faire ça.
Vous évoquez, Jacques Attali, dans « Comment nous protéger des prochaines crises », livre publié chez Fayard, 8 crises possibles. Vous insistez beaucoup justement en parlant des États-Unis, mais pas seulement, sur l'endettement, endettement des États, endettement des ménages.
J'ai voulu faire le point sur où on en était 10 ans après la crise précédente sur tous ces sujets. Et en effet, il y a 8 crises. Et le grand danger, c'est une sorte de conflagration où toutes se rejoindraient, ce qui n'est pas impossible. Tout en sachant qu'il y a des solutions. Ce n'est pas un livre ni pessimiste, ni de résignation, ni de simple colère. Mais sur le premier terrain, c'est-à-dire la crise financière, j'étais frappé moi-même de voir combien la situation est pire qu'en 2007-2008.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que, après nous le déluge, on a choisi de régler une crise de la dette en faisant davantage de dettes. C'était une crise de la dette privée et qu'on a transféré en dette publique, et aujourd'hui la dette publique est remontée partout dans des proportions qu'on connaît, je ne vais pas rappeler les chiffres qui sont gigantesques.
Au-delà de 100% jusqu'à 250% pour le Japon, voilà. Juste pour fixer les idées.
Mais qu'on tolère parce que les banques centrales ont pu baisser les taux d'intérêt, donc on a l'impression que ce n'est pas grave. D'autant plus que certaines de ces dettes sont pas mauvaises. J'explique d'ailleurs que le ratio du PIB n'est pas la bonne façon de mesurer la dette. Il y a aussi des dettes privées partout. C'est plus pour le logement aux États-Unis, mais c'est pour l'automobile et pour les prêts étudiants, dans lesquels on fait les mêmes erreurs aux États-Unis qu'on faisait antérieurement pour le prêt au logement.
Vous rappelez là aussi les montants, Jacques Attali, qui sont énormes, 1200 milliards de dollars d'endettement pour les automobiles aux États-Unis.
Et plus encore pour les étudiants. Donc et tout ça étant financé par les banques, comme l'avait été le logement des plus pauvres. Avec aussi des prêts, des endettements d'entreprises gigantesques, avec des entreprises qui sont en très grande difficulté. Tesla est en très grande difficulté, General Electric va très mal. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de très mauvaises. Et puis, dans les pays du Sud émergents, l'industrie est dans une situation d'endettement considérable. Mais tout passe, tout donne l'impression que ça peut fonctionner, parce que les banques centrales impriment à l'infini des billets. Et que on reporte les échéances à plus tard.
Mais justement parce que on a surtout critiqué les politiques d'austérité en Grèce par exemple, est-ce que la dette, laisser les États faire de la dette, ça n'est pas aussi une manière de lutter contre le populisme, sachant que l'austérité provoque le populisme?
Oui, c'est une manière de lutter contre le populisme qui ne revient qu'à le reporter, puisque on ne règle aucun des problèmes. Au bout de la route, l'endettement va retomber sur les consommateurs et sur les classes populaires, alors que l'endettement aujourd'hui profite aux plus riches. Le mécanisme est tel que l'endettement enrichit les plus riches et appauvrira les épargnants les plus pauvres à terme. Et
contre cela, justement, Jacques Attali, que pourrait-on faire ?
Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, créer les conditions. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Ce qu'il faut faire à titre individuel, comme personne privée, pour se protéger de la crise, des crises, et ce qu'il faudrait faire à titre collectif. Ce qu'il faudrait faire à titre personnel, c'est faire très attention à la façon dont on place son argent, si on en a. Mais je ne suis pas ici un conseiller financier. Il faut faire très attention aux différents placements qu'on peut avoir. Et à titre collectif, il est clair que ce qu'il y a à faire, c'est autant que possible créer les conditions d'un ordre international meilleur, ce qui n'est pas possible, autant que possible créer les conditions d'une Europe plus forte, qui est encore possible, c'est-à-dire d'une Europe qui se rassemblerait, qui développerait une politique industrielle, une politique de défense et une gestion beaucoup plus raisonnable des investissements publics. Et si on ne peut pas le faire au titre national, il faut avoir une gestion personnel de notre pays, de la France, qui soit aussi tourné que possible vers la construction de l'avenir, c'est-à-dire vers la réduction des inégalités, vers l'éducation, qui est la priorité majeure sans laquelle rien ne se passera, et serrer les dents devant la crise qui vient.
Mais vous évoquez effectivement toutes ces pistes possibles pour le futur, Jacques Attali, et il n'en reste pas moins que les politiques font rarement de la politique au futur, ils sont élus au présent. Pourquoi changeraient-ils de comportement ?
C'est ce que, dans la fondation que je préside, on appelle l'économie positive, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes. J'essaie de démontrer dans ce livre que si on agit aujourd'hui dans l'intérêt des générations suivantes, c'est ce qu'on a de mieux à faire pour son propre présent. Si on avait agi il y a 20 ans dans l'intérêt des générations suivantes, la situation du climat aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est.
Justement, le rapport du GIEC ce matin évoque au mieux un réchauffement d'1,5 degré dans un futur proche. Vous qui avez été proche des cercles dirigeants, pourquoi par exemple ce réchauffement climatique, Jacques Attali, n'a pas du tout été envisagé comme un danger? Pourquoi ça n'imprime pas?
Ça n'imprime pas parce que demain, c'est après, comme vous l'avez dit, c'est après les élections prochaines. C'est pas, on n'a pas de temps. On a le temps d'y penser. Maintenant, je pense que ça imprime, comme vous dites. Les gens commencent à en prendre conscience un peu partout. Nous voyons beaucoup d'actions diverses, le développement des énergies renouvelables. Il faut aussi savoir que le nucléaire, qu'on aime ou n'aime pas pour des raisons diverses, est une solution au réchauffement climatique, même s'il pose d'autres problèmes. Il y a d'ailleurs une nouvelle qui est passée un peu inaperçue. Si elle est vraie, elle est absolument gigantesque. C'est une déclaration du récent prix Nobel de physique français qui a dit, en tout cas je l'ai lu en tant que tel, que ses propres découvertes permettraient dans les décennies qui viennent de réduire la radioactivité des déchets nucléaires de plusieurs, qui sont aujourd'hui de plusieurs millions d'années, à 30 minutes. Si c'est vrai, c'est à la fois énorme pour faire du nucléaire une solution qui serait alors sans risque aux problèmes climatiques. Et ça serait une preuve de plus que on peut aussi avoir un espoir dans le progrès technique d'une façon générale et ne pas craindre les catastrophes. Ceci dit, en attendant toujours tout du progrès technique, comme le font les dirigeants politiques, c'est comme attendre tout d'un messie éventuel, d'une solution qui viendrait d'ailleurs. Ça arrive parfois, voilà un exemple qui pourrait arriver et qui serait extraordinaire. Ça arrive parfois, mais ça arrive pas toujours. Il faut faire tout pour être en situation de ne pas dépendre d'un messie extérieur.
Mais alors si on ne tient pas justement comme certain que le progrès technique s'occupera de trouver une solution à notre problème actuel, que peut-on proposer d'autre, Jacques Attali? Est-ce que, par exemple, une existence plus frugale? Est-ce que c'est un scénario viable aujourd'hui
c'est
pour vous?
C'est tout à fait nécessaire. Je ne dirais pas une existence plus frugale, mais une existence qui soit très heureuse et qui ne dépende pas d'un certain nombre de choses. D'abord, évidemment, tout ne dépend pas du comportement individuel. Beaucoup, l'essentiel dépend de la loi, du règlement. Si on prend par exemple la voiture électrique qui va être déterminante, c'est plus facile de l'imposer en demandant aux villes et aux États de mettre en place des réglementations. Et je pense qu'elles viendront. Nous avons fait un forum il y a quelques jours où nous avons vu beaucoup l'expérience particulière d'une ville espagnole qui a déjà interdit la voiture chez elle. La réglementation qui va imposer la voiture électrique ou même imposer une ville sans voiture viendra avant 2050, bien avant. On dit 2050, mais je pense que ça viendra plus. Donc là, c'est là un domaine où la réglementation va accélérer le progrès technique. Mais déjà, dès aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à titre personnel qui participent de ça. Si tout le monde, par exemple, je suis une des crises qui vient dans les huit, dans les crises écologiques, c'est la crise de l'eau, qui est une évidence. L'humanité manque d'eau, va manquer encore plus d'eau quand nous serons 2 milliards de plus.
Oui, parce que vous évoquez que cette crise-là, elle est liée effectivement à la demande principalement agricole. 70% des besoins en eau sont utilisés pour l'agriculture, 10% seulement pour les êtres humains. Par rapport à ça, justement, comment faire en sorte que ces crises ne deviennent pas terribles?
Il y a une convergence aussi, parce qu'il y a deux éléments dans cette crise. Il y a la crise de l'eau, qui est en effet liée à l'agriculture, et l'agriculture, c'est surtout, dans ce cas-là, l'élevage, qui lui aussi a une conséquence considérable sur le réchauffement climatique, puisque les animaux sont un émetteur important de méthane. Et donc, qu'on le veuille ou non, que ce soit volontaire ou culturel ou un choix personnel, nous serons tous dans 50 ans végétariens. Pas totalement sans doute, pas avec des compensations qu'il faudra trouver, mais le véganisme ou les différentes formes du fait d'être végétarien vont avoir un impact très positif sur la consommation planétaire de l'eau et ne sont pas une privation insupportable de l'humanité.
Et en attendant, parce que...
Mais c'est une dimension, il y a aussi la gestion raisonnée de la pêche, l'usage des déchets plastiques.
Cette gestion raisonnée sur les questions d'eau, sur les questions de pêche, puisque vous évoquez l'épuisement des ressources halieutiques, Jacques Attali, il y a la possibilité d'avoir une gestion raisonnée globale, et cet échelon global, c'est lui qui semble aujourd'hui être parfaitement défaillant.
tout à fait défaillant. La fondation que je préside, et j'en reparle aussi dans ce livre, nous avons proposé toute une série de mesures qui devraient être appliquées à l'échelle de la planète, qui sont possibles, qui ne sont pas... les solutions existent. Ça va depuis l'augmentation du prix du carbone planétaire qui devrait être fixé à entre 40 et 100 dollars la tonne. Si c'était fait, on est aujourd'hui entre 0 et 20, 25, 30 selon les pays, parfois un peu plus. Si c'était placé à 50, 60 à l'échelle de la planète, on atteindrait les contraintes qu'exige le GIEC. Ça suppose évidemment une décision internationale pour que là encore il n'y ait pas de passagers clandestins. Ça va à l'autre extrême jusqu'à ce que le progrès technique soit lui-même une solution positive qui est possible, mais pas toujours. Prenez l'intelligence artificielle, si on n'y prend pas garde, l'intelligence artificielle va devenir le pire ennemi de l'homme. Mais par contre, on peut encore aujourd'hui éviter cette crise technologique qui fera du progrès technique un monstre, et en utilisant au contraire les meilleures dimensions du progrès technique. Je pense en particulier à quelque chose qu'on néglige, qui est le biomimétisme.
C'est-à-dire ?
Le biomimétisme, pour moi, est une piste formidablement positive, dans la mesure où comprendre mieux la nature, savoir comment elle réagit, comment elle agit, utiliser cette formidable bibliothèque qui est à nos portes et à nos pieds et autour de nous pour résoudre des problèmes que la nature résout est une chance incroyable que nous avons, à condition de ne pas la détruire.
Qu'est-ce que le biomimétisme a permis, Jacques Attali ?
Pour l'instant, en tout cas à l'homme, pas encore grand-chose, sinon des avancées dans certaines formes d'architecture, dans certaines formes d'ailes d'avion, dans certains matériaux qui commencent à utiliser. Mais les potentialités sont des milliards. La nature trouve des solutions incroyables à tous les problèmes, y compris l'économie d'eau, l'économie d'énergie, sur lesquelles nous avons beaucoup, beaucoup à apprendre de la nature.
C'est-à-dire que malgré les informations qui, une fois de plus, chaque jour se répète, vous demeurez optimiste,
Jacques Attali ? Positif. Il y avait un magnifique match de foot.
Ça n'est pas la même chose, effectivement.
Non, c'est pas la même chose. Il y avait un magnifique match de foot hier entre le PSG et l'OL. On a vu que un joueur qui est optimiste, il perd le match parce qu'il est spectateur. Un joueur qui pense qu'il peut le gagner et qui joue, c'est-à-dire qui est positif, il le gagne.
Bon, on va voir si on réussit à marquer 4 buts en 15 minutes, puisque c'est ce que Mbappé a fait hier soir. On va voir si c'est reproductible. Jacques Attali, vous publiez « Comment nous protéger des prochaines crises ». C'est aux éditions Fayard. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va voir comment il est possible de gagner ce match en France. Et puis d'ailleurs, de quel match il s'agit. Il est 8h sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nous sommes en compagnie de Jacques Attali, lequel publie « Comment nous protéger des prochaines crises » chez Fayard. On va évoquer la situation politique en France. Et justement, ce qu'on parlait du Parti communiste français, du programme commun, la voix d'un certain nombre de leaders de l'époque et une évocation de François Mitterrand. Vous étiez à ses côtés, Jacques Attali, au moment de la rédaction du programme commun. C'est un peu de votre faute si le Parti communiste est dans cet état-là.
D'abord, petit détail historique, je n'étais pas là au moment de signature du programme commun, j'étais encore beaucoup trop jeune, mais je suis arrivé juste après. C'est-à-dire, je suis arrivé au moment de la renégociation de ce qu'on appelait l'actualisation du programme commun au moment de la campagne présidentielle de 1974. Oui, en effet, mais il y a un autre facteur que vous avez évoqué aussi, qui est la prise de conscience de ce que l'Union soviétique n'était plus un modèle. Et évidemment, s'est défait à partir de là, même s'il y avait à l'intérieur des gens extraordinaires, de grands serviteurs de la République. On a eu de grands ministres communistes et des grands hauts fonctionnaires communistes, mais le système s'est défait à ce moment-là. Alors, progressivement, la gauche contestataire nécessaire à ce pays, parce que c'est dans son histoire, s'est reconstituée autrement, et ça dépend beaucoup de questions de personnes. Mais le Parti communiste tel qu'il était ancré au Parti communiste soviétique avait plus de raison d'être.
Et l'idée marxiste, vous avez consacré une biographie à Karl Marx, c'était en 2005, Jacques Attali. 13 ans plus tard, selon vous, quel diagnostic porteriez-vous ? Alors, il reste évidemment une gauche, celle-ci ne se réclame pas nécessairement du marxisme, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon évoque le nom de Marx fréquemment, sauf erreur de ma part.
Ben oui, parce que Marx n'était pas marxiste, Marx était un immense penseur, mais Marx était un penseur global. Pour Marx, il fallait que le capitalisme aille à son terme à l'échelle de la planète, pour le renverser globalement dans un courant historique qui était une lutte qu'il voyait entre la classe ouvrière planétaire et le capital, pour créer une société qui ne soit pas simplement une société d'appropriation collective des moyens de production, mais une société de la gratuité par le dépassement du capitalisme. Il était d'ailleurs extrêmement contre les expériences nationales, et en particulier à la fin de sa vie, quand il l'a vu venir contre l'expérience en Russie. Il considérait trop arriéré pour mener une expérience communiste. Donc, Marx ne doit surtout pas être utilisé comme un alibi. C'est un immense penseur qui reste aujourd'hui, pour moi, un des phares, un des guides de la pensée globale, puisque c'est il y a pas personne qui pense plus global que Marx, contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
Retour sur la politique française. Lorsque Gérard Collomb a démissionné, vous avez tweeté que c'était une bonne nouvelle pour la France. Pourquoi, Jacques Attali ?
J'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur les urgences, sur le fait qu'il faut cesser de ronronner. Il y a beaucoup de crises d'une extrême gravité et de moyens de répondre à ça. J'ai toujours dit mon hostilité à la politique des migrants qui était employée par ce ministre. Et j'ai détesté aussi la façon dont il a abandonné le navire au milieu de la tempête, que j'ai trouvé peu responsable.
Mais c'était sa politique ou celle d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne l'a pas fait à l'insu du président
en
de la
effet,
République.
J'ai pris parti contre sa politique, parce que cette politique est globale, et j'ai pris parti contre cette politique, même si j'ai des raisons de penser que le ministre de l'Intérieur n'était pas pour rien dans la définition de cette politique. Maintenant, il faut prendre les faits comme ils sont. Il faut accueillir le mieux possible les gens qui sont là. Il faut prendre acte du fait qu'il y a de moins en moins de migrants qui viennent vers l'Europe, contrairement à ce qu'on croit. Que ceux qui viennent doivent être accueillis le mieux possible. Mais pour qu'on puisse en accueillir plus un jour, ce qui me paraîtrait l'honneur de la France, il faut commencer par bien accueillir ceux qui sont là. Parce que si on accueille mal ceux qui sont là, on va créer les conditions pour qu'ils soient mal vus, mal ressentis, et l'opinion publique en voudra encore moins. Donc, avant d'en recevoir beaucoup plus, il faut d'abord consacrer beaucoup plus de moyens à leur intégration. Et c'est là où on renvoie à un des thèmes de ce livre, c'est-à-dire le fait que résoudre le problème des autres, c'est aussi résoudre le sien. Nous avons intérêt à avoir des migrants bien intégrés. D'abord parce que s'ils sont bien intégrés, ils sont utiles à la nation. Et ensuite parce que nous avons intérêt à créer les conditions d'un pays où plus de Français financent la France d'après-demain.
Jacques Attali, quel bilan dressez-vous d'Emmanuel Macron après un peu plus de 500 jours à l'Élysée ?
Un bilan globalement positif, comme aurait dit Georges Marchais en son temps, parlant de l'Union soviétique. C'est vous qui m'avez attiré cette réminiscence. Un bilan globalement positif, même si je suis, moi, un homme de gauche, je reste un homme de gauche, et la partie gauche du programme reste encore très largement à accomplir. Mais je pense qu'il a fait bouger un certain nombre de réformes positives en matière d'environnement, pas assez, en matière de modernisation et d'attirance des investisseurs étrangers, c'est très bien et ils font plus. En matière d'éducation primaire, le fait d'avoir consacré plus de moyens à l'école maternelle est fondamental, mais ça n'est qu'un début et il faut aller beaucoup plus dans cette direction. J'étais très frappé d'une étude qui a montré cette semaine que les élèves de l'école polytechnique sont de plus en plus recrutés dans les classes supérieures. De mon temps, c'était déjà le cas, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il faut agir sur la classe maternelle, mais il faut agir beaucoup plus loin tout au long de la société. S'il y a une priorité majeure à continuer, c'est de sortir de l'entre-soi culturel qui détermine la France d'aujourd'hui.
Bilan globalement positif pour Emmanuel Macron. C'est une opinion qui aujourd'hui est minoritaire en France. Comment l'expliquez-vous, Jacques Attali ?
Quand on est populaire, quand on est au pouvoir, ça peut être très suspect. Vous pouvez être plus populaire quand vous faites rien. Vous pouvez être impopulaire parce que vous faites rien non plus, vous pouvez être populaire parce que vous faites des mauvaises choses, mais vous pouvez être aussi impopulaire parce que vous faites des choses qui n'auront un impact que beaucoup plus tard. Il faut replacer ça dans un contexte long. Pour moi, ce qui compte, c'est un homme politique regarde les sondages. Un homme d'État se dit en permanence, que pensera-t-on de ce que je fais dans 20 ans ? Et je pense que la meilleure façon de régler ces crises épouvantables qui sont devant nous, qu'on peut résoudre, c'est en permanence de se dire, qu'est-ce que ce que je fais aujourd'hui aura comme conséquence dans 20 ans ? Dans la façon dont j'utilise un globe plastique, ou dans la façon dont je vote, ou dans la façon dont je me comporte.
Mais c'est pas ça qui est reproché à Emmanuel Macron. ce qu'il fait contre le plastique est, je dirais, brutalement assez consensuel. Ce qui pose problème, c'est à la fois un certain nombre de décisions, par exemple des régulations du marché de l'emploi. Certains trouvent que c'est insuffisant, d'autres que c'est bien trop important, ou bien encore son comportement personnel, ces petites phrases.
Oui, non, sur le, vous avez évoqué la dérégulation du marché de l'emploi. Ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure en disant il y a des choses qui on a fait la partie droite des réformes et pas la partie gauche. Pour moi, la partie droite, c'était cette dérégulation. La partie gauche, c'est que si vous dérégulez, donc si vous facilitez le licenciement, mais si en même temps, vous n'augmentez pas massivement les moyens de la formation des chômeurs, bah, vous avez fait tout ce qui ne suffit pas.
Par exemple, donc, ça, c'est une idée que vous avez cherché à défendre depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
Et cette idée, elle a été reprise par Emmanuel Macron de manière extrêmement timide, je dirais, verbale.
Pas vraiment. Elle existe dans les arcanes et dans les systèmes du on peut expliquer qu'elle existe et qu'elle est là, à mon avis, de façon très insuffisante, mais pour des raisons très compliquées, qui sont que la formation permanente a été décentralisée. Elle est de la responsabilité des régions, donc l'État ne peut pas s'imposer. Mais quand même, il existe une organisation qui s'appelle France Compétences, qui devrait pouvoir l'imposer aux régions. Nous sommes dans une situation administrative d'une complexité extraordinaire, où le président de la République a beaucoup moins de pouvoir que beaucoup de gens lui prêtent. Et en particulier, je suis pas un grand fanatique de la décentralisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, parce que justement elle interdit de mener une politique globale. Or, la formation professionnelle des chômeurs est la clé de la résolution du problème du chômage.
Stéphane Robert.
Vous pensez qu'il est prisonnier de la technostructure aujourd'hui, Emmanuel Macron ?
Je dirais pas ainsi, je dirais qu'il y a d'abord un entre-soi qui fait que toute la classe dirigeante est pour l'essentiel formée de même genre de gens issus du même genre de milieu. Et d'autre part que l'administration met un temps fou à faire descendre des décisions et qu'en même temps elle fait remonter ses propres suggestions beaucoup plus facilement. Donc c'est très difficile de, quand on est au pouvoir, plus difficile encore qu'avant, d'imposer les choses, tout simplement parce que dans une démocratie aussi décentralisée que la France, le temps entre la décision et son impact est considérable. Donc oui, d'une certaine façon, le pouvoir politique globalement est très largement, plus encore aujourd'hui, télécommandé, c'est un mot excessif, mais très largement inspiré par la technostructure.
À quel moment Stéphane l'impopularité pour un chef de l'État devient rédhibitoire ?
S'il devient rédhibitoire, le jour où il cherche à se faire élire, en dehors de ça, elle ne l'est pas. C'est tout.
Mais il n'y a pas un moment où ça devient, parce que là, il y a le doute qui y a un doute qui s'installe.
Non, mais elle ne devient. Vous savez, il y a tellement d'enjeux dont on vient de parler. Il y aura tellement. Le monde est tragique. Il va se passer dans les 4 ans qui viennent des choses très difficiles, dans lesquelles il faut à la fois l'unité de la nation, la création d'une puissance européenne face aux enjeux chinois, russes, africains. Enfin, des enjeux gigantesques sont devant nous. Donc, il faut créer les conditions pour garder la possibilité de cette union nationale qui va être nécessaire à un moment ou l'autre dans les 4 ans qui viennent pour réagir à ces grands projets. Évidemment, si à un moment le pouvoir politique est ressenti comme définitivement discrédité, si le groupe parlementaire se divise en miettes, là, c'est le problème. Donc, je regarderai plutôt les problèmes dans la solidité du groupe parlementaire qu'ailleurs.
Le monde est tragique. Emmanuel Macron le sait-il ? François Mitterrand le savait assurément. Emmanuel Macron n'est pas de cette génération. Est-ce que vous pensez qu'il
faut lui demander. Faut lui demander, mais moi, je crois.
Vous croyez plus souvent que nous.
Je crois qu'il le sait. Je crois qu'il le sait.
Et s'il le sait, dans ces conditions, pourquoi avoir la sensation, c'était un éditorial de Gérard Courtois dans Le Monde, qu'il oscille entre, ou bien, un commentaire extrêmement érudit, philosophique, et puis des propos qui sont des propos du café et du commerce.
Ben souvent, c'est le propre des médias. Vous retirez la petite phrase qui pose problème, et les gens font leur chou gras et on regarde pas les il a fait sans arrêt. Je ne veux pas le défendre, je passe son porte-parole, il m'arrive d'être extrêmement critique. Mais il fait des discours de fond dont personne ne parle. Il a fait des discours sur l'Europe, il a fait des discours sur la pauvreté, il a fait des discours sur la santé, il a fait des discours sur la défense, il a fait des discours de fond. Vraiment, il a fait un discours récemment sur la Constitution, toute une série de choses de fond qui ennuient tout le monde parce que il n'y a pas la petite phrase qu'on a retenue à Saint-Martin.
Bon, nous, ça ne nous ennuie pas. Prenons par exemple l'exemple de la pauvreté. La crise sociale, c'est l'une des 8 crises que vous évoquez dans votre livre. Comment protéger des prochaines crises? Quel diagnostic faites-vous par rapport à cette crise-là? Et qu'est-ce qui nous menace au travers d'elle?
D'abord, à l'échelle planétaire, ce qui nous menace, c'est une extraordinaire aggravation des injustices avec une concentration des richesses telle que les riches soient complètement coupés du reste et des riches, c'est-à-dire la classe dirigeante et non pas l'élite, et que donc ils prennent des décisions en fonction de ce qu'ils voient du monde, c'est-à-dire pas grand-chose, et donc eux ils sont protégés des risques climatiques, donc ils s'en occupent pas. Et le reste du monde, on a presque l'impression qu'on va vers une dualité génétique de l'espèce humaine, avec les pauvres et la classe moyenne d'un côté, puis les très riches de l'autre. Ça, c'est vrai. Il faut évidemment éviter ça, et c'est ça qui nous menace, c'est cette discontinuité dans l'espèce humaine qui est en marche. Je ne pense pas qu'elle soit spécialement valable en France, qui est un pays dans lequel les inégalités sont moins fortes qu'ailleurs, même si je signalais le cas de l'enseignement supérieur, où il est tragique de voir que les élites se recrutent toujours de la même façon. Mais c'est très grave, mais c'est moins qu'à l'échelle planétaire. Donc il y a un vrai risque de ce que les classes dirigeantes soient discréditées par leur incapacité à régler le problème de la mobilité sociale, où les élites conservent pour leurs enfants les places dominantes, et les élites ou classes dirigeantes culturelles, pas seulement d'argent, mais de capital culturel. Et ça, c'est un danger extrême. La mobilité sociale du capital culturel est absolument fondamentale et elle est en train de se réduire.
Mais alors, justement, est-ce que le politique en fait suffisamment en France contre cela? Et vous avez, par exemple, eu une action dans le cadre du microcrédit, et où là, il s'agit donc d'accompagner des personnes qui n'ont pas nécessairement ni le capital, ça c'est évident, mais aussi peut-être l'esprit d'entreprise qu'ils devraient avoir pour monter leur entreprise. Est-ce que dire à quelqu'un de traverser la rue, est-ce que c'est une manière de l'aider, Jacques Attali?
Nous le faisons. La Fondation Positive Planète, nous travaillons dans de nombreux quartiers pour former les gens à la création d'entreprises. Ça fait partie de la formation des chômeurs auxquels j'attache la plus grande importance. Et c'est vrai que, au fond, le propre d'un pouvoir politique, c'est créer les conditions pour que personne n'ait à se plaindre. Créer les conditions pour que, en traversant la rue, on trouve un emploi. Alors, on peut discuter de savoir si les conditions sont réunies aujourd'hui. Moi, je crois qu'elles ne le sont pas.
Mais c'est-à-dire
je crois que pour beaucoup de gens, traverser la rue ne suffit pas pour trouver un emploi. Pour beaucoup de gens, pour un certain nombre de gens, ça suffit. Voilà. Donc, il faut jouer sur les deux tables. Il faut les deux choses. Il faut se prendre en main. Il faut n'attendre rien de personne. Il faut agir. Il faut ne pas être ce que j'appelais dans un livre précédent des résignés réclamants, des gens qui sont résignés à ce que le système ne change pas, mais qui réclament quand même un peu plus de miettes du système. Donc, se prendre en main pour se trouver, devenir soi et être en situation de se réaliser. Mais en même temps, il faut que la collectivité, le pouvoir politique y aide davantage. C'est pour ça que j'attache tant d'importance à la formation des chômeurs ou à la formation de ceux qui... si ce jeune homme était formé à un métier... Il se trouve que ce cas est un mauvais cas, parce que ce qu'on a dit n'était pas spécialement à son avantage. Mais si ce jeune homme avait été formé à un métier dans lequel il n'avait pas de débouché, eh bien, il appartient à lui d'aller chercher une autre façon d'exercer sa vocation que là où il ne peut pas travailler.
Bon, mais alors, ce jeune homme, effectivement, est peut-être un mauvais exemple dès lors qu'il a un diplôme, qu'il a la possibilité d'embrasser une carrière, en l'occurrence, d'horticulteur. Mais dans votre dernier livre, « Comment nous protéger des prochaines crises », vous évoquez justement les menaces que font peser, par exemple, l'intelligence artificielle, un certain nombre de processus qui ne sont plus seulement des processus de mécanisation qu'on a bien connus dans le passé, dans l'économie et les économies récentes. Oui. Jacques Attali, est-ce que cette classe-là, des gens qui n'ont pas forcément le capital culturel, le capital social, ne vont pas être durement frappés par...
Il y a une crise technologique énorme qui va arriver, qui va supprimer non pas des emplois, mais des tâches. C'est des parties.
Quelle différence
dans... Une tâche, c'est une partie de l'emploi. C'est des choses qui sont faites, mais l'emploi peut être conservé pour faire d'autres choses. Et puis, il y a des emplois qui vont être de plus en plus nécessaires. Il faudra de plus en plus de gens pour s'occuper des enfants. De plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'apparaître. De plus en plus de gens pour s'occuper des personnes âgées, parce que les besoins vont être considérables. De plus en plus de gens pour s'occuper de ce que j'appelle les métiers de la démocratie. Policiers, juges, avocats, journalistes. Ça, c'est des métiers qu'il faut absolument protéger parce que c'est la clé. Et on parle trop souvent des métiers qui vont disparaître. On parle des métiers de science-fiction liés à ingénieurs, technologie, etc. Mais on ne parle pas assez, à mon avis, de ces métiers fondamentaux qui vont être nécessaires. J'en ajouterai une quatrième catégorie. C'est tous les métiers liés à la nature. Paysans, jardiniers, écologues. Ça, c'est des métiers... Voilà, quatre catégories de métiers qui sont... horticulteur en fait partie, dont les potentiels de développement sont à la fois énormes et nécessaires par rapport aux crises dont nous parlions tout à l'heure.
Mais avec quel financement? Puisque là, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, Jacques Attali, sur l'endettement, donc des États, endettement
oui,
des ménages.
L'éducation est tout à fait est un investissement. Donc il n'y a pas de limite à l'endettement si c'est pour financer l'avenir. Aucune limite.
Stéphane Robert.
On voit qu'Emmanuel Macron est assez adepte du aide-toi et le ciel t'aidera, ou plutôt demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays, plutôt que l'inverse, ce que ton pays peut faire pour toi. Est-ce qu'il est en phase avec la société française? Est-ce que c'est pas trop anglo-saxon, ça, comme conception dans
Il faut les deux. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la distinction marxienne, et non pas marxiste, de la liberté réelle et de la liberté formelle. Il faut créer les conditions pour que les gens soient en situation de pouvoir s'aider eux-mêmes. Mais je pense, nous en faisons l'expérience tous les jours dans la fondation dont je parle, si on dit à quelqu'un toute une série de règles, de principes qui lui permettent d'acquérir une confiance en lui, on peut aider à peu près n'importe qui à trouver ses ressorts intérieurs, à trouver ce qu'il peut faire d'autre, à prendre conscience que sa vie est unique, que il va pas revenir 50 fois sur la planète, qu'il peut faire peut-être mieux que ce qu'il fait, qu'il lui appartient de se trouver et de travailler dans cette direction-là. Ça suppose un encadrement, ça suppose un accompagnement qu'il appartient à la pouvoir public de mettre en place. Mais cet encadrement ne remplacera pas ce qu'on appelle en anglais d'un mot pédant le grit, en français d'un mot plus juste la niaque. Ça ne remplacera pas. Et je crois que la fonction de l'éducation, c'est justement de donner cette niaque, cette énergie, cette envie de vivre pleinement que chacun d'entre nous doit avoir.
Mais le politique n'est-il pas là justement pour protéger les personnes? On parlait tout à l'heure des États-Unis, Jacques Attali. Il y a eu deux cartes fascinantes dans le New York Times. La carte des emplois que la guerre commerciale que Donald Trump mène contre la Chine est censée protéger, puisqu'il y a toute une série d'emplois qui sont directement exposés à la concurrence chinoise aux États-Unis. Et de l'autre côté, le pourcentage de vote pour Donald Trump. Deux cartes strictement superposées. Est-ce que ça ne montre pas que Donald Trump, alors on peut le détester, le trouver vulgaire, tout ce que vous voulez, mais il prétend, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, protéger les ouvriers américains, et c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui.
Oui, mais c'est un très bon politique. Il fait ce qu'il faut à court terme pour les élections intermédiaires et les élections suivantes. Mais est-ce qu'il est au service des États-Unis du 21e siècle? Je ne crois pas. Parce qu'en protégeant ses emplois, il va faire monter les prix d'une façon générale et il ne va pas encourager le développement des technologies qui permettront de créer les emplois d'après-demain. Donc il crée les conditions d'une survie provisoire. Et encore une fois, l'engrenage planétaire qui va entraîner la coalition des crises par le protectionnisme. N'oublions pas que c'est par le protectionnisme qu'a commencé l'engrenage qui a conduit à la guerre de 14 et à 80 ans de barbarie. Et là, ce même engrenage est en marche.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous...
Protectionnisme entraîne nationalisme, nationalisme entraîne la guerre. Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Et au milieu, il y a quelques crises financières et quelques crises sociales.
Avec une autre crise supplémentaire dont on n'a pas parlé, que vous évoquez dans votre livre, Comment nous protéger des prochaines crises, cette crise, elle est liée à ce que vous appelez le divertissement, une sorte d'affaissement de la culture. Peut-être en quelques mots, Jacques Attali, nous dire en quoi cela consiste et pourquoi, pour vous, il y a là un danger supplémentaire.
La meilleure façon de régler les prochaines crises, c'est de ne pas les regarder, de ne pas les voir. Et il y a toute une industrie pour masquer les crises. La première industrie, c'est la dette. Hein. Ça retarde les choses, ça viendra plus tard. Et la deuxième industrie, c'est la distraction, sous toutes ses formes, qui est une formidable machine à permettre de supporter l'éventualité des crises sans les voir, sans écouter les oiseaux de mauvais augure dont on me dit souvent que je fais partie, alors que j'essaie au contraire d'être positif en montrant qu'il faut agir. Mais la distraction, c'est le pire ennemi de nos enfants. À la fois parce qu'ils passent trop de temps à se distraire et parce que nous passons trop de temps à nous distraire pour nous occuper.
Des enfants seulement?
J'ai dit des enfants. Ils passent trop de temps à se distraire et nous passons trop de temps à nous distraire pour nous occuper des problèmes qui vont les concerner.
Dites-nous du mal des journalistes. Tout à l'heure, vous étiez sur le point de le faire. Est-ce que une certaine forme d'information n'est pas aussi en train de distraire ? C'est vous qui le pensez. J'aimerais vous entendre là-dessus.
C'est vous qui les appelez des journalistes. Je ne leur donnerai pas ce nom.
Mais dites-nous ce qu'ils font d'abord, avant de ne pas vouloir les nommer, Jacques Attali.
Non, mais je pense que mettre l'accent en permanence sur la petite phrase, rechercher ce que vous n'avez pas fait ce matin, j'en suis très heureux, à tirer de mes propos une petite phrase qui fera les titres et les relances, qui fera la dépêche d'agence qui éventuellement suivrait notre émission, c'est bien. Mais c'est pas ce qu'on fait ailleurs. Quand on est dans beaucoup d'endroits, on doit se battre pour pouvoir parler du fond. Et il y a en effet un grand danger de ce que le politique lui-même soit victime de ça, quand on retient de tel ou tel... Madame Theresa May fait un discours important à son parti. On retient juste l'image où on la voit esquisser un pas de danse en arrivant sur scène. C'est terriblement triste.
Bon, mais c'est aussi de sa faute. On n'imaginerait pas François Mitterrand esquissant un pas de danse.
C'est de sa faute. Elle a été victime elle-même de cela, et c'est ça qui est grave, c'est que les politiques y entrent dans ce jeu et cherchent même à faire la petite phrase qui vont faire qu'ils sont pour les journalistes ce qu'on appelle un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des bonnes petites phrases. Et cet engrenage-là fait qu'on parle pas assez des sujets sérieux.
Est-ce que ça veut pas
et
dire...
Les sujets sérieux, c'est vraiment très très grave. Ce matin, on l'a vu, ce qui se passe sur le climat, ce qui se passe sur la pauvreté, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Italie. On voit bien que nous sommes au bord de catastrophes épouvantables. On voit bien qu'il y a des solutions, mais c'est tellement facile de pas en parler.
Qu'est-ce qui vous incite à penser, Jacques Attali, que les préconisations que vous donnez dans votre livre « Comment nous protéger des prochaines crises » ne seront pas finalement ces thèmes que vous agitez depuis longtemps? Par exemple, la formation des chômeurs, c'est vraiment une idée qu'on retrouve chez vous depuis très longtemps, mais une idée qui peine à prendre réalité. Alors là, il y a probablement une question de décentralisation, mais
elle trouve la réalité. D'abord, il y a beaucoup de pays qui le font maintenant. C'est vrai en Europe du Nord, c'est vrai dans beaucoup de pays où on a compris que c'était absolument essentiel. C'est même vrai en Chine. Imaginez-vous, on commence à le faire. En France, c'est plus lent. Il faut répéter les choses, répéter. C'est Pierre Mendès France qui, quand j'étais très très jeune, me disait, jeune homme, ne faites pas de politique, c'est un métier ennuyé qui consiste à répéter.
Et sur les enjeux de climat, des enjeux qui, cette fois-ci, ne sont plus seulement franco-français, mais...
Montre combien la politique de fermeture des frontières est absurde, parce qu'on ferme pas la frontière au changement climatique, il y a beaucoup des enjeux de la planète. On n'échappera pas à un gouvernement planétaire qui soit pas un remplaçant des gouvernements nationaux, mais en plus, et qui réglera les problèmes, ou aidera aussi démocratiquement possible à régler les problèmes de la planète. Sinon, on aura une juxtaposition de dictatures, puis une catastrophe avant qu'on se réveille de nouveau, comme on l'a fait à chaque fois, puisqu'on a réglé les problèmes après les crises et non pas à la place. Et aujourd'hui, on est encore en situation de régler les problèmes à la place de la crise.
Jacques Attali, comment nous protéger des prochaines crises ? C'est votre livre que vous publiez chez Fayard.